Europe 1, il est 7h.
Vous savez, le Michelin, c'est une chose très importante pour nous. Pour la bonne raison, c'est la référence type, et je crois que c'est sûrement le seul guide qui est impartial.
Il disait l'importance du Michelin sur Europe 1 en 1993. Paul Bocuse, dont l'auberge mythique du Pont de Collonges, vient de perdre sa troisième étoile après 55 ans au firmament.
C'est une envie de moins et aussi une envie de mieux qui se confirme. Les Français consomment moins de l'alimentation à l'hygiène, achat en recul de près d'1,5% l'an dernier. Et la tendance inquiète la grande distribution.
Des consommateurs en quête de qualité et de proximité. Salon du fait en France ce week-end à l'Elysée. Une centaine d'exposants ravis de ce coup de projecteur.
C'est une excellente opportunité de faire rayonner notre produit, notre technologie. Et donc on est très heureux de cette fenêtre médiatique.
Dans ce journal aussi, la grève des avocats jusque dans les tribunaux. Et le top départ de Marine Le Pen pour 2022.
Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. J'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle.
Et puis quand les maisons de disques font la cour aux stars de YouTube.
Quel plaisir d'être enfin devenu
influenceur.
Les youtubeurs et leurs millions d'abonnés, nouvel Eldorado de l'industrie du disque. 7h01 sur Europe 1. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
La guerre des étoiles dans le guide rouge, nouvel épisode. Le guide Michelin déclasse une institution de la gastronomie française.
Et pas des moindres, hein, puisqu'il s'agit de l'auberge de Paul Bocuse à Collonges au Mont d'Or, près de Lyon. Pierre Herbulot, 2 ans après le décès du grand chef, l'établissement perd sa 3e étoile.
Oui, et je peux vous dire qu'il y a plus d'un chef ce matin qui a eu des sueurs froides en apprenant la nouvelle à 10 jours de la sortie du guide Michelin, parce que l'auberge du Pont de Collonges, le restaurant de Paul Bocuse, en plus d'être une institution, c'était un peu le phare qui guidait les autres restaurants gastronomiques. 3 étoiles depuis 55 ans, un modèle de longévité dans l'excellence. L'établissement où Monsieur Paul, comme on l'appelle, a écrit sa légende avec des plats mythiques, toujours à la carte aujourd'hui. Le loup en croûte feuilletée, les quenelles de cendre et homard sauce champagne ou la célébrissime soupe aux truffes, VGE connue dans le monde entier. Mais le guide ne juge pas l'histoire, mais bien ce qu'il y a dans l'assiette. La qualité s'est détériorée ces dernières années pour le patron du Michelin qui s'est déplacé en personne à Lyon pour annoncer la nouvelle aux équipes. Le directeur du restaurant avait bien tenté de redresser la barre, de moderniser un peu la salle, la cuisine, ça n'a pas suffi. Bon appétit et large soif, aimait dire Paul Bocuse. Ce matin, à l'auberge du Pont de Collonges, tout le monde a la gueule de bois.
Pierre Herbulot, la fin d'un règne donc de 55 ans pour le restaurant de Paul Bocuse, le chef qui, il y a 26 ans, sur Europe 1, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, relativisait sa longévité au sommet du Guide Rouge.
Ça va faire 30 ans l'année prochaine. Vous savez, Madame Point a gardé plus de 50 ans 3 étoiles et Raymond Tullier, qui est décédé là ces jours, avait aussi gardé à peu près une cinquantaine d'années 3 étoiles Michelin. Vous savez, le Michelin, c'est une chose très importante pour nous. Pour la bonne raison, c'est la référence type, et je crois que c'est sûrement le seul guide qui est impartial.
Voilà, Paul Bocuse sur Europe 1 en juillet 1993.
Et voilà qui nous rappelle une autre guerre entre le guide Michelin et un restaurateur. Quel restaurateur ? Marc Vera sera mon invité à 7h40 ce matin sur Europe 1.
Il est 7h03.
De l'abondance à la frugalité. C'est un vrai changement de notre modèle de société. Tendez l'oreille, montez le son. Vrai changement qui est en train de se jouer dans notre pays. Et les derniers chiffres de la consommation en attestent.
Bonjour Daniel Fortin.
Bonjour.
L'éclairage éco tous les matins dans ce journal. On va donc s'arrêter sur cette baisse l'an dernier des achats de produits de grande consommation. Moins 1,4% en volume selon l'Institut IRI. Une baisse qui fait entrevoir un basculement vers une société de déconsommation.
Oui, et car cette fois la chute est sérieuse. Elle est 2 fois plus élevée qu'en 2018, où on avait déjà connu une baisse de 0,8%. Ça concerne tous les produits, l'alimentaire, l'entretien, l'hygiène. Ça concerne aussi tous les types de magasins, de l'hypermarché à la supérette de quartier. Et il faut noter que le phénomène est d'autant plus marqué que la population, elle, continue à croître chaque année. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, 2 choses. Il y a un vrai impact de pouvoir d'achat. Les Français, et notamment la classe moyenne inférieure, se serrent la ceinture. Et en parallèle, il y a une plus forte exigence de produits de qualité, quitte à acheter moins. Les 2 combinés font que l'ère de la consommation de masse semble bel et bien en train de se terminer.
Et quelles sont les conséquences pour les industriels et les distributeurs?
Alors pour l'instant, ils réussissent encore à compenser par la hausse des prix ou la montée en gamme qui permet de vendre plus cher. En 2019, les distributeurs ont encore enregistré une timide hausse de leur chiffre d'affaires, mais ça ne va pas durer. Au mois de décembre, par exemple, l'activité des grandes surfaces alimentaires a chuté de 2,8%. C'est un signe et c'est un vrai problème qui se dresse devant ces mastodontes qui sont, il faut le rappeler, parmi les plus gros employeurs de France. La réponse immédiate, hélas, on la connaît. Auchan vient d'annoncer un plan social. Les magasins sans caissière vont être généralisés pour faire des économies. Il va falloir très vite trouver une réponse pour éviter une vraie casse sociale.
Merci Daniel Fortin, c'était votre éclairage. Vous êtes rédacteur en chef aux Échos. Simplement, notre ambition, c'est de vous raconter les changements de la société. Notez bien qu'on surveille ce secteur comme le lait sur le feu à Bercy, la crainte d'une casse sociale dans la grande distribution. Vous allez peut-être réagir. Est-ce que vous avez tourné le dos aux grands hyper 3921 et le hashtag Europe 1 ?
C'est une course de fond qu'elle a lancée dès hier. Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, la patronne du Rassemblement National, qui va s'appuyer sur les prochains scrutins d'ici 2022 pour lancer son tour de piste. Pour Europe 1, Jean-Gabriel Bourgeois.
Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise.
C'est la fin d'un faux suspense. Marine Le Pen prend date.
C'est donc très tôt, sans pour autant totalement préjuger de la décision qui appartient au congrès de notre mouvement, que j'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle.
La route vers l'Élysée passe d'abord par la campagne des municipales et la patronne du RN va multiplier les déplacements 2 à 3 par semaine en moins de 2 mois dans toutes les régions. Une véritable rampe de lancement vers 2022, selon l'eurodéputé Jeanlin Lacapelle.
C'est une étape, une rampe de lancement, oui. Marine Le Pen avait parlé d'une grande montagne qu'il fallait gravir. L'élection municipale est une première étape, mais il y a ensuite les élections régionales, les élections départementales, et qui nous mèneront au sommet de cette montagne, qui est l'élection présidentielle et qui est la conquête de l'Élysée.
Et pour son tour de France, l'ambition de Marine Le Pen est d'aller partout, y compris en Bretagne ou en Pays de la Loire, qui sont encore des terres de mission pour le RN. Mais elle ira aussi dans des endroits où le Rassemblement national est déjà fort, comme dans le bassin minier, ou comme demain à Nangy, en Seine-et-Marne, qui a voté RN à 35% aux européennes.
La précision signée Jean-Gabriel Bourgeois. Elle non plus n'a pas caché ses ambitions pour 2022. Chez nos confrères de BFM Télé, hier, Ségolène Royal assure qu'elle sera prête si c'est elle qui est la mieux placée.
Nous sommes le 17 janvier. Hein. 17 janvier 2020. Et nous avons déjà deux candidats, c'est ça? On commence à faire la liste pour les prochaines présidentielles. Il y a encore les municipales dans 2 mois. Hein. L'Élysée à la conquête duquel s'élance aussi une centaine d'entrepreneurs. Ils viennent de tout l'Hexagone pour participer ce week-end au premier salon du fait en France.
Oui, demain et dimanche, le palais présidentiel ouvrira ses portes au public pour valoriser ses productions françaises. Axel Barbeau, originaire d'Olioule dans le Var, en sera avec un appareil qui permet de lutter contre les accidents de plongée. Pour cet ancien plongeur militaire, ce salon est un vrai coup de pouce.
C'est une excellente opportunité de faire rayonner notre produit, notre technologie. Et donc, on est très heureux de cette fenêtre médiatique et du rayonnement que ça va lui occasionner. Voilà. C'est un produit 100% made in France, et d'autant plus made in France que c'est un produit qui résulte d'un fort travail de recherche-développement. À l'origine, c'est un projet qui a été développé en partenariat avec le CNRS. C'est vraiment du savoir-faire issu de la France.
Rayonnement pour cet entrepreneur rencontré par Frédéric Michel pour Europe 1 et pour l'Élysée, l'occasion de mettre en avant une France qui avance, qui innove pour Europe 1, Jean-Rémy Baudeau.
Il y a un frémissement, on a bon espoir que cela provienne de nos réformes. Voilà ce que répond un conseiller d'Emmanuel Macron quand on lui parle du bilan économique du président. Alors qu'Édouard Philippe est englué dans les négociations des retraites, le chef de l'État veut prendre de la hauteur sur des séquences plus positives. Tout le week-end, l'Élysée sera ouvert au public pour une grande exposition sur les produits fabriqués en France. Lundi, le président visitera une usine à Dunkerque où des investissements vont être annoncés. Le soir, Emmanuel Macron accueillera quelques 200 patrons internationaux à Versailles avant de recevoir mardi une centaine d'entreprises de tailles intermédiaires. À l'Élysée, on martèle que les réformes prises depuis 2017 commencent à porter leurs fruits. On veut montrer que notre économie bouge, explique un conseiller. Un proche du président délivre ses mots-clés. Création d'emplois, recul du chômage, retour de l'attractivité. En un mot, tout sauf les négociations retraite et les grèves.
Jean-Rémy Baudeau.
Trois syllabes, perspective. Souvenez-vous, il y a quelques mois, presque un an, on avait fait presque un an, je parlais d'une boule aiguë, c'est bon. Il y a presque un an, on avait fait un sommet.
Squeezie, 14 millions d'abonnés sur YouTube. Ces youtubeurs, ces influenceurs que regarde de près l'industrie du disque. C'est notre enquête à la fin de ce journal dans un instant.
À 7h11 sur Europe 1, le journal se poursuit avec Marion Calais et Mathieu Béliard.
C'est une profession en pointe dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Les avocats très présents hier dans les rues pour la 6e journée de mobilisation.
Il y a les manifestations qui font moins le plein, 187 000 personnes hier, mais il y a aussi toutes les actions initiées dans les tribunaux à travers toute la France. Les avocats qui veulent conserver l'autonomie de leur régime de retraite ont déposé massivement des demandes de remise en liberté.
Leur objectif ? Perturber tout le système, au risque de voir des prévenus remis en liberté sans être jugés. Les explications, Salomé Legrand pour Europe 1.
Les premiers dossiers se sont empilés à Marseille. Plus de 200 demandes de mise en liberté déposées en 2 jours, dans le lot des détenus en prison pour des affaires de criminalité organisée. Puis Toulouse, Bordeaux, Douai et les barreaux de toute l'Île-de-France sont embrayés. Mouvement suivi jusqu'à la Guadeloupe et Saint-Martin. En tout, des centaines de demandes simultanées, tous dossiers confondus, du terrorisme au financier. Problème, la loi prévoit qu'elle soit étudiée dans un certain délai. S'il est dépassé, le prévenu est remis en liberté automatiquement, quel que soit son profil ou la gravité de ce qu'on lui reproche. C'est donc une course contre la montre qui s'engage, mais surtout du travail supplémentaire pour les greffiers et les magistrats qui passent en configuration gestion de crise pour faire face au raz-de-marée et prioriser les dossiers. Certains pestent, d'autres espèrent un coup de projecteur sur les faibles moyens de la justice. À Lyon, deuxième barreau de France, on pousse pour une autre option, la séquestration sur un compte commun à la profession des TVA et cotisations URSSAF.
Salomé Legrand.
Un hommage rendu aujourd'hui à Lyon aux policiers morts après avoir été percutés volontairement par un fourgon le week-end dernier. Plusieurs suspects ont été arrêtés hier.
La diversification d'une industrie confrontée à une révolution des usages. Aujourd'hui, les maisons de disques ne misent plus seulement sur les artistes au sens classique du terme. Elles s'appuient désormais sur les stars de YouTube pour assurer leur avenir.
Je suis belle, je fais du make-up. Okay. Je suis geek, je fais des walk-up. Okay. Malais, je fais des libs. Okay. Balais, je fais du workout.
Ça, c'est Squeezie. Et si son nom ne vous dit rien, je vous conseille tout de suite de demander à vos enfants assis à côté de vous. Pour vous donner une idée, Squeezie, c'est 14 millions d'abonnés sur YouTube. Bonjour, Angèle Châtelier. Un nombre d'abonnés qui a clairement pesé pour son lancement dans la musique.
Oui, avant, pour signer un contrat avec les maisons de disques, il fallait s'appeler Johnny, Souchon, Florent Pagny. Et maintenant, on regarde le nombre de vues sur Internet. L'extrait de Squeezie qu'on vient d'entendre a fait plus de 4 millions de vues en 4 jours. Pour vous donner une idée, pour atteindre ces 4 millions, Céline Dion a mis 2 mois.
Les maisons de disques ont donc besoin des youtubeurs, mais est-ce que l'inverse est vrai ?
Bah oui, c'est du gagnant-gagnant. Le marché du disque ne va pas bien et pour les labels, les communautés YouTube, c'est un tremplin pour se relancer. Côté youtubeur, les maisons de disques représentent aussi une aubaine. C'est un énorme accélérateur de carrière. C'est ce qu'explique Mehdi Aljaï, directeur général du label V-Records.
On s'est rendu compte quand même que beaucoup d'artistes qui avaient essayé de se passer de l'expertise des maisons de disques en sont revenus et qu'aujourd'hui, ils pensaient qu'on peut se passer de cette expertise commerciale, marketing, mise en place stratégique, analyse, etc. Je ne suis pas certain.
Alors on comprend, Angèle, l'intérêt business, mais si on parle qualité musicale, là, ça donne quoi ?
Je vais vous surprendre, qu'ils chantent bien, qu'ils chantent mal, c'est pas vraiment ce qui compte. L'important, c'est qu'ils restent bien dans leur registre. Ils font de l'humour, il faut qu'ils fassent des chansons drôles. Maxence, lui, est plus mélancolique dans ses chansons sur YouTube.
Alors si tu pouvais me laisser dormir cette fois.
J'ai envie de dire aux personnes, oui, mais tu sais, à côté de ça, j'écris des chansons, j'écris des textes un peu quand même qui c'est sincère, assez profond, et je suis pas juste un mec dans sa chambre qui fait des conneries.
Résultat, son album n'a fait que 10 000 ventes, loin de son million d'abonnés sur YouTube.
Angèle Châtelier.
Il faut que ça reste un peu drôle
enquête.
Quand même. Un peu drôle, on comprend. Merci Angèle, merci Marion Calais.
Avec plaisir.
Vous êtes sur Europe 1, un excellent réveil à toutes et à tous.